cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Nous sommes sur les Champs-Élysées, enfin pas précisément sur les Champs-Élysées, mais en bas des Champs-Élysées, dans un café parisien, et nous buvons donc un thé, un Coca-Cola avec Jean-Éflamme Babouzet. Bonjour Jean-Éflamme Babouzet.
Bonjour.
Nous voulions vous rencontrer à Cobuzz, parce que vous venez de publier le troisième volume de votre intégrale de piano de Debussy, qui a été édité pour la belle Chandose. C'est l'occasion, on va dire le prétexte de vous rencontrer. On peut dire vraiment que vous débordez d'activité, vous êtes présent de nombreux concerts, vous enregistrez, on parle beaucoup de vous, c'est également l'occasion peut-être d'en savoir peut-être un peu plus sur vous. Alors on peut peut-être commencer justement par cette intégrale. Quand on attaque quelque chose comme ça d'aussi important que l'œuvre de piano de Debussy, quelle est votre démarche à vous par rapport à ça? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à être très accroché à l'histoire du disque et par exemple aux enregistrements passés? Est-ce que c'est un mélange également avec évidemment votre vision propre de la musique? Comment vous approchez un travail aussi titanesque?
Moi, j'aime toujours beaucoup écouter ce qui... J'ai une assez grande collection de disques et j'aime entendre ce qu'ont fait mes illustres prédécesseurs et ce que font aussi mes contemporains. Je suis un peu dans le même tempérament que Rubinstein, c'est-à-dire que je suis content de toute façon. Si c'est très beau, ça me ravit. Et si c'est éventuellement moins intéressant que ce que je peux faire à la maison, ça me réconforte dans mes idées. Donc moi, de toute façon, quand j'écoute des pianistes, je pense qu'on apprend toujours énormément. Que ça soit de leur qualité ou de l'excès de leur qualité qui peuvent se tourner quelquefois en défaut, peut-être, éventuel. Dans leurs inspirations fulgurantes ou même éventuellement de leur manque d'inspiration. Je pense qu'on a de toute façon dans tous les cas de figure beaucoup à apprendre. Je peux imaginer un certain danger à cela, à savoir un certain mimétisme, souci de vouloir reproduire. Et de reproduire d'une manière un peu impersonnelle. En effet, mais je ne pense pas. Je pense pas que ça peut être, parce que si on a vraiment un lien direct avec la musique, si on a un point de vue déjà personnel, toutes ces influences ne peuvent que l'enrichir. Et à la fin, ce qui est très étonnant, c'est pour moi les grands interprètes, qu'ils soient de Debussy ou de les grands pianistes, réussissent ce paradoxe extraordinaire d'être à la fois reconnaissable dès la troisième seconde. Et à la fois de laisser transparaître la musique et d'être d'être transparent, que leur interprétation devienne transparente et qu'on se retrouve face à l'idée originelle du compositeur. C'est très mystérieux. Pourquoi on reconnaît Richter ou Gieseking ou Kocsis, pour nommer comme ça des pianistes que j'aime bien, ou Goulda, tout de suite, par exemple dans Debussy, alors que on a l'impression que chacun a sa vérité. Donc, moi j'écoute beaucoup. Je me laisse pas du tout comme ça enfermé dans une tour d'ivoire et je me dis je vais. Bien sûr, il y a un travail personnel énorme, bien sûr. Il y a un travail de remise en question, bien sûr. Un travail sur le texte. On vient de rencontrer Alain Planès à l'instant. On parlait justement des problèmes d'édition dans Debussy qui sont assez importants. De savoir quelles nuances, quelle altération. Bon, on n'a pas toujours d'ailleurs des réponses très 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 claires par tour. Mais non, je pense qu'il faut à partir du moment où il y a un véritable désir d'être en communion avec cette musique, toutes les influences sont bonnes à prendre, je crois.
Thank you. justement ce... Alors là, je pourrais poser la question, j'allais dire, quand vous avez commencé, c'est-à-dire se frayer un peu un chemin et trouver sa propre personnalité à travers des géants, que ce soit tous les noms que vous avez cités, c'est quelque chose qui vient naturellement, qu'on réalise, comment ça...
Oui, alors justement, je dirais que dans mon cas, c'est d'autant plus facile pour moi d'en parler que mon processus de maturation ou de contact avec Debussy a été très très long. Très très long. Debussy n'a pas du tout fait partie des compositeurs vers lesquels je me suis senti tout de suite attiré quand j'avais 17 ans, enfin quand on fait ses études au conservatoire. Et même quand on a des professeurs aussi remarquables que Pierre Sancan et Jean Hubeau, par exemple, pour nommer ceux qui parlaient toujours du grand Debussy avec beaucoup d'émotion et qu'essayaient de... il y avait quelque part une certaine incompréhension un peu. Une insensibilité. Mais, et là où je leur en suis très reconnaissant, c'est que c'est maintenant que je comprends ce qu'ils voulaient me dire. Enfin, maintenant, ça fait à peu près quand même 10 ans. Hein? Donc, en fait, entre 15 ans et 35 ans, c'est pendant ces 20 ans, ça a mûri un peu tout seul. Et puis, soudain, j'ai été foudroyé. Mais vraiment foudroyé. Quand on parle de coup de foudre, c'est ça, foudroyé.
Une œuvre en particulier.
Oui, Péléas, c'est une scène en particulier, scène de la tour. Foudroyé, me retrouvant en larmes dans une chambre d'hôtel à Tokyo sans savoir ce qui m'arrivait, je veux dire. Et un enregistrement, celui de Karajan avec José Vanda. Voilà. Et là, j'ai pas compris, parce que ça a été très, très soudain. Et ça m'a pas... À la fois, ça a été très soudain, c'était un crescendo lent, mais la dernière partie est venue très rapide. Et ça m'a pas quitté depuis. Donc, à partir du moment où on est, je pense, bien guidé, ce qui vraiment a été ma chance au conservatoire, Pierre Sancan avait travaillé avec Henri Busser, et vraiment profondément, hein, c'est bien que Jean Hubeau, toute cette musique de Debussy, m'avait mis sur une pierre, sur une espèce de direction artistique très, 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 très saine. La maturation s'est fait d'elle-même. Mais ce qui est intéressant, il me semble, c'est quand on vous dit oui, vous jouez bien Debussy parce que vous êtes, ou alors vous jouez parce que vous êtes français. Oui, évidemment, eh bien, je suis désolé, dans mon cas, c'était pas du tout ça. C'est venu bien plus tard.
Quand on se lance dans une telle intégrale, ou quand on l'attaque, on utilise presque des termes guerriers, se lancer ou attaquer une intégrale, il y a.
Oui.
Comment ça fonctionne? Est-ce que on va par quel bout de la lorgnette?
Oui, mais c'est pas, bien sûr, mais c'est pas non plus si si énorme que ça. Je veux dire, ça présente grosso modo 4 disques pleins. Je veux dire, c'est pas ni les sonates de Beethoven, ni une intégrale Schumann ou ni une intégrale.
Même esthétiquement.
Non, esthétiquement, bien sûr. C'est très intéressant. Et c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer dans le petit texte que j'ai écrit dans les disques, c'est que en fait. Une intégrale, dans certains cas, vous permet de voir... on est dans d'un point de vue très particulier, puisqu'on couvre tout. Et donc, on peut faire des rapprochements et sentir encore mieux l'évolution du compositeur, ses recherches et son raffinement. Dans le cas de Debussy, c'est évident, il n'y a qu'à voir son écriture. Même son écriture, la manière dont il écrit pour le piano, où au début il écrit comme tout le monde, des crescendo, des accents, et à la fin, il termine dans les études ou les préludes, où il a jusqu'à 8 modes différents d'attaque et des nuances très compliquées, très élaborées. Et ça, c'est fascinant de pouvoir tout couvrir. Et aussi, ce qui est très intéressant pour moi, je trouve, c'est de pouvoir mettre le doigt encore peut-être plus, d'une manière plus prononcée, sur chaque pièce. Pour pouvoir la démarquer et lui créer son univers propre.
Ce que j'allais vous demander justement, c'est-à-dire que voilà, vous l'avez dit vous-même, chaque pièce a été écrite à une certaine période, dans un contexte différent, chaque pièce a son histoire. Vous, vous êtes plongé pendant une période donnée dans la globalité de cette œuvre. Comment justement vous arrivez à finalement à chaque fois à trouver justement la spécificité de telle pièce, qui, tel contexte, qui est écrit de telle manière, avec telle particularité. Est-ce que c'est facile ou pas finalement?
Non, bien sûr que non. Là, je crois comme c'est Ton Kumpmann qui le disait, que le musicien doit être extrêmement cultivé pour être le plus libéré possible. Je me méfie d'un travail purement instinctif, même si quelquefois il peut donner des résultats extraordinaires s'il est en adéquation avec l'œuvre, mais il peut aussi faire des faux pas. Un travail qui considérerait tout simplement à jouer de la manière dont on le sent, sans se préoccuper ni d'un contexte, j'allais dire musicologique ou historique, ou de ce que la pièce a pu représenter à ce moment pour le compositeur. Non, et je pense qu'il faut lire le plus d'informations possible, essayer de connaître le plus possible le compositeur, et après avec ça évidemment se sentir libre et de pouvoir le, parce qu'il ne s'agit pas de reproduire quelque chose authentique, je ne sais pas quoi. Non, on vit aujourd'hui, il faut que ça, je suis un homme d'aujourd'hui et je veux parler, je veux joindre les gens de mes contemporains. Non, une grande question chez Debussy, et je suis assez fier de ma réponse à ce problème, d'ailleurs, c'est la manière d'avoir groupé les œuvres en quatre programmes. Ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que, on n'a qu'à le voir d'ailleurs, chaque pianiste qui s'est attaqué à ça, comme pour reprendre l'heure, l'a fait différemment.
La touche personnelle, c'est une touche personnelle importante, oui. En même temps, justement, esthétiquement, c'est essentiel.
C'est très très important, c'est très important. Je voulais essayer de que chaque album puisse avoir une certaine logique interne. Et non pas mettre, par exemple, des pièces très connues avec d'autres pas connues, tout simplement pour faire un peu une espèce de... pour remplir, quoi. Et qu'on se retrouve avec ou des pièces mélangées ou même de style. Et là, je crois que je suis très content de ce que j'ai pu faire. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu c'est comme ça que ça a été pris. Puisque ça, chaque album a quand même une autonomie et une certaine logique interne, quoi. Il est évident que Debussy n'a jamais conçu son œuvre pour être séparé en quatre programmes différents. Ça, mais c'est quand même à l'interprète, c'est celui qui fait tout ça. Il faut bien le mettre sur un CD. Donc ça, c'est un problème beaucoup plus important qu'on peut imaginer, parce que ça veut aussi dire, ça répond un peu à votre question, que dans un même programme, il faut aussi toucher des choses différentes. Il faut réussir à démarquer ou à rapprocher, si on le souhaite, des œuvres et à rendre ces oppositions ou ces rapprochements encore plus clairs. Bon, évidemment, je pense à quelque chose d'assez simple dans le deuxième volume, où le deuxième mouvement des Images oubliées et la première version de la sarabande de la suite pour le piano. Mais bon,
c'est pédagogique ou esthétique selon vous,
d'être pédagogique, ça, je pense, ça serait quand même un peu exagéré de ma part. Mais je pensais que c'était intéressant, par exemple, de regrouper tous les préludes sur un seul disque, même si c'est tout à fait vrai qu'ils sont difficiles à entendre. 24 pièces, petites pièces les unes après les autres, c'est difficile. De regrouper toutes les 12 études l'une après l'autre, c'est difficile à entendre. Mais aujourd'hui, on n'écoute plus les disques du début à la fin. Les gens n'ont plus le temps pour ça. Donc là, le troisième volume, c'est le troisième volume qui était le plus délicat, puisqu'on se retrouve avec plein de petites pièces éparses et qui s'échelonnent donc sur les premières pièces, toutes premières pièces de danse bohémienne jusqu'à la dernière élégie, et de pouvoir trouver un ordre qui, quand même, musicalement a du sens. Si on a le temps d'écouter le disque du début à la fin, et aussi quand même chronologiquement avait un sens, c'est-à-dire de faire ces deux parallèles, à la fois musical et à la fois chronologique. Et je pense que le résultat marche bien. Vraiment, de ça, je suis très content.
De beaucoup de choses, je suis assez content, mais de ça, je suis très content.
Comment vous avez travaillé avec les gens de Chando sur un aspect, j'allais dire, sur cet aspect certes artistique, comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a eu de l'échange, vous étiez complètement libre, et après peut-être sur un aspect technique d'enregistrement, comment ça... Est-ce que c'est quelque chose d'ailleurs, l'enregistrement, ben, l'aspect technique, c'est quelque chose qui vous tient à cœur?
Absolument, vraiment absolument. Je savais très très bien ce que je voulais, et d'ailleurs, j'étais à cet égard très heureux de faire ça avec Chandos, parce que j'avais des disques de Chandos, et c'était je voulais que Ralph Cousin travaille, donc je lui ai donné comme exemple plusieurs choses qu'il avait déjà faites. Je lui ai dit, voilà, c'est dans cette direction-là que j'aimerais qu'on cherche. D'abord, j'étais allé en Angleterre, et on était allé... faire une tournée de plusieurs salles et de plusieurs pianos, et parce que ça me semblait un peu risqué de me lancer dans une intégrale justement de Debussy où la qualité sonore étant tellement, on pourrait dire ça de tous les enregistrements, bien sûr, mais enfin, la musique de Debussy, si on n'a pas un bon piano, il y a carrément un élément qui manque, quoi. Je veux dire, il faut un très bon son. Peu de compositeurs qui ont travaillé sur la sonorité. Bon.
Et donc vous avez trouvé votre bonheur.
Et moi, je savais très bien ce que je voulais. Donc on a fait plusieurs salles. Finalement, on a fait. Et après, dans la science, évidemment, dans les essais. Et ce qui a été merveilleux, c'est que ça a pris très très peu de temps. Et tout de suite, il y a eu le son que je voulais. D'ailleurs, c'est amusant parce que même la même salle, le même piano, le même accordeur, le même preneur de son, les mêmes micros, en fait, il y a quand même des différences d'album en album. Ça tient à vraiment rien. Mais peut-être jusqu'à maintenant, je pense celui le premier album des Préludes. Et peut-être la sonorité qui m'a le plus enchanté jusqu'à maintenant. Mais enfin, les deux autres sont vraiment très... C'est exactement le son que je voulais. Et je suis très actif dans le processus de montage également. Et oui, c'est un aspect qui m'intéresse énormément. Non seulement qui m'intéresse, mais qui me concerne et auquel je consacre beaucoup de temps.
Comment vous abordez justement la musique, qu'elle soit enregistrée, donc en studio, dans un contexte d'enregistrement de studio, avec des interruptions possibles, ingénieurs du son, etc., et dans un contexte live, dans un contexte public? Les intégrales, vous avez fait justement...
Ça n'a rien à voir. C'est exactement la même chose que quand les acteurs font du théâtre ou du cinéma.
Justement.
C'est exactement la même chose.
Comment justement, vous est-ce que... En fonction de certains compositeurs, vous, comme ça pourrait être le cas pour certains textes, pour des acteurs par exemple, vous voyez plutôt la...
Mais
la
je trouve que quand même la musique de Debussy, se marie assez bien avec l'atmosphère concentrée et recueillie et silencieuse d'un studio. Et de la même manière qu'elle se marie assez bien avec cette nouvelle forme d'écoute maintenant, comme vous avez vu tout à l'heure, avec votre casque sur les oreilles. Même si vous êtes comme ça en plein Paris, évidemment, c'est peut-être pas forcément l'idéal pour écouter la pie aux cheveux de lin ou la balade. Mais je veux dire qu'une écoute intime chez soi, sur sa chaîne, se marie bien avec Debussy. Pourquoi ? Parce que, non pas qu'on ne joue pas Debussy dans les salles de concert, mais je pense quand même que de jouer Debussy dans des grandes salles de concert, je pense où plus de 1500 personnes, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu comme les petites pièces de Chopin. Debussy aimait que les gens... Il y a beaucoup... D'abord, il y a tout un travail au niveau compositionnel sur la résonance. Donc, dès que vous jouez dans une grande salle, la plupart des les gens n'entendent pas. On peut pas, il y a un problème acoustique évident. Mais il y a aussi un problème d'intimité. La musique de Debussy n'est pas une musique qu'on projette. à 1500 personnes en même temps. Non, je crois pas. Lui, il disait, je pense qu'il y avait, c'est même une musique qu'on doit partager entre quatre yeux, je veux dire, à la limite. Et même, est-ce qu'il faut la partager du tout quelquefois? Donc c'est pour ça, le studio est très bien pour ça, je trouve. D'autres compositeurs comme Beethoven, c'est très différent.
Et puis l'aspect physique aussi, j'imagine, est différent quand vous êtes sur scène, quand vous attaquez une intégrale, vous faites une intégrale Beethoven, je crois, ou même. L'aspect physique, quand vous savez qu'il y a, je ne vais pas dire qu'il y a un aspect marathon, mais quand vous êtes lors d'un concert, d'un festival, sur plusieurs jours même, ce côté justement...
Vous parlez au niveau de la gestique
au niveau même de vous-même, c'est-à-dire de l'implication personnelle dans la mentale, quand je veux dire physique, pas uniquement physiquement, techniquement, d'attaquer...
Ah non, mais parce qu'il est évident que quand même le jeu, si on joue, je dis quand même toujours, si on joue devant, il y a plus de différence de jouer devant une personne. Il y a moins de différence. Si on joue pour personne ou une personne, eh bien, cette différence-là est beaucoup plus grande que si on joue pour une personne ou pour 1000 personnes. De jouer entre une personne et 1000 personnes, il y a peu de différence. Mais entre absolument personne du tout et une personne, ça, la différence est énorme. Parce que, quand même, si, même au niveau physique, même au niveau de la, on pourrait presque dire de la théâtralisation, du body language, je veux dire, on s'implique forcément beaucoup plus. Si de la même manière que j'essaie de vous convaincre de ce que je dis, j'aurai des gestes beaucoup plus grands que si je reste impassible, et parce que je sais que de toute façon vous allez m'entendre chez vous plus tard sur votre chaîne. J'ai pas besoin de toute cette je vais pas dire maintenant qu'on fait forcément malheureusement il y a certains de nos collègues qui sont tombés dans je ne peux pas nommer, non, mais il ne faut pas maintenant faire une caricature de ce qu'on joue, une théâtralisation à outrance de ce qu'on joue. Moi, je suis toujours plutôt pour la sobriété, mais je me rends compte bien moi-même que quelquefois, on se laisse emporter et on a forcément une gestique différente. Et évidemment, une concentration et une tension bien plus grande en concert. Alors là où c'est intéressant, après, il y a le problème du montage. Parce que le montage, de la même manière que le producteur du film choisit les meilleures prises et essaye de faire que son film a le meilleur rythme naturel possible, la grande difficulté du montage, c'est d'essayer de recréer cette spontanéité, cette fluidité du discours, et de le rendre organique. Et ça, c'est fascinant. Ça, c'est un travail que j'aime beaucoup faire. Beaucoup faire.
Si Debussy...
Et je considère même cette part comme une véritable deuxième étape de création artistique, aussi importante que celle qui se passe dans le studio.
Si Debussy est un compositeur, et les autres venaient de citer, qui se prêterait plus, entre guillemets, au studio qu'à la scène, quels sont les compositeurs ou les œuvres précisément pour lesquels vous pensez que le contexte de la scène est le
plus important?
Eh bien, justement, Beethoven,
oui, je trouve. Je trouve Beethoven plus difficile à. On va voir, on commence avec Chandos là en octobre, l'enregistrement des sonates, qui sera publié plus tard, enfin, puisque je joue en ce moment, je vais jouer les 32 sonates à Pékin, donc c'est quelque chose que je voulais absolument entreprendre, et je suis content que Chandos me fasse cette confiance, parce que ce n'est pas les enregistrements des 32 sonates qui manquent. Pour avoir commencé un peu aussi au Japon, je vois que la Beethoven en studio est plus délicat. Est plus délicat que sur scène. Peut-être à cause c'est une toute autre approche. Et je suis très content de commencer, alors que c'était avant mon idée, je pense que ça aurait été une très grave erreur de faire les deux en parallèle. C'est une très bonne idée de commencer Beethoven en ayant fini tout Debussy.
Oui. Comment vous approchez justement le choix de... des œuvres que vous enregistrez par rapport à l'enregistrement? C'est-à-dire que, comme on sait, l'enregistrement, c'est la trace qui reste, une fois qu'on n'est plus là. Est-ce qu'il y a...
Dites pas ça, je vais avoir des cauchemars.
Est-ce que vous avez dit également que vous étiez un homme aussi de disque, au sens où vous écoutez, etc. Donc, comment
j'aime beaucoup, bien
comment
sûr.
Comment vous choisissez? Est-ce que ça peut être aussi parfois... Vous avez cité effectivement des...
Non, mais je crois...
Très, très enregistré. Comment vous choisissez?
Je ne sais pas si maintenant il y a des maisons de disques. Enfin, j'imagine. Mais enfin... C'est forcément un travail. Je pensais pas du tout l'intérêt de la maison de disque d'imposer quoi que ce soit à l'artiste. Mm. Et puis que l'artiste se trouve aujourd'hui où on a plus besoin d'enregistrer quoi que ce soit à la limite. Bon, alors si on le fait, c'est parce qu'on veut dire quelque chose de nouveau, hein, et donner un peut-être un regard différent. Qui ne veut pas du tout dire faire table rase sur tout ce qui a été fait, mais il y a une évolution dans l'interprétation, et il y en aura forcément. On le voit bien déjà du petit témoignage qu'on a de ces à peu près 100 dernières années, comment l'interprétation a évolué. J'exagère un peu, mais 80 dernières années, quoi. Alors, non, il se trouve qu'on se fait des suggestions de part et d'autre, et puis on va voir. Là, je sais que Chandos aimerait beaucoup que j'enregistre beaucoup de Satie. Bon, je dois vous avouer, c'est pas une musique là que je connais même dans sa totalité. Donc, je sais que je peux sans aucun doute avoir un répertoire d'un disque pour de Satie, de musique de Satie. Il se trouve en plus que j'ai un cousin, Thierry Baudat, dont c'est une grande passion. Et lui, puisqu'il a plus grand magasin de manuscrits sur la place de Paris. Je veux dire, il est au courant de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être passionnant de travailler avec lui. On va faire un disque, puis on verra bien comment ça se passe. Si on voit que c'est un monde dans lequel je peux continuer à évoluer, on continuera. Puis sinon, il y a des projets. Il y a évidemment Bartok, un compositeur que j'aime beaucoup. Il y a Haydn que j'aimerais beaucoup continuer à fréquenter. Schumann aussi.
Est-ce qu'il y a également à l'opposé des jardins que vous regardez plutôt de loin, comme ça, des zones et qui vous...
Bien sûr.
Soit qui vous intriguent, mais vous n'osez pas,
Bien sûr. Averie, il change pas dans mon cas depuis pas mal de temps déjà. C'est Schubert, Brahms et Shostakovich. Brahms, pour l'instant, je me sens trop français pour ça. Schubert, et Dieu sait si maintenant, en plus en étant depuis presque 10 ans professeur en Allemagne, je l'enseigne régulièrement. On apprend d'ailleurs énormément dans le processus d'enseignement.
C'est
extraordinaire, c'est évident. Et je pense qu'une bonne collaboration élève et étudiant est une collaboration où les deux parties apprennent l'une de l'autre. Oui, mais je sens bien que c'est un peu tôt pour Schubert. Et puis Shostakovich, j'ai beaucoup de problèmes parce que j'ai assez peu de l'attirance pour cette musique. Je n'arrive pas à me détacher de certaines faiblesses rythmiques ou même harmoniques ou de pauvreté du langage qui, je peux bien imaginer, peuvent émouvoir. Mais cette noirceur continuelle, cette accusation de ce régime totalitaire et de tout ce qu'il a pu engendrer me fatigue.
Enseignement, vous enseignez depuis longtemps, comment ça?
À peu près 10 ans, depuis 1999 ou 2000.
C'est quelque chose qui s'est imposé à vous? C'était un besoin au tout début? Qu'est-ce qui vous...
Ah non, au contraire, au début, quand on me demandait de donner des masterclass comme ça, à droite à gauche, ça c'est toujours facile. Vous arrivez, vous faites un peu, c'est la touche du maître, c'est la cerise, il y a toujours un peu de chaud. Ça peut d'ailleurs déclencher des choses. Moi, en tant qu'étudiant, j'ai aussi beaucoup appris de masterclass. Et Sancan était un maître extraordinaire parce qu'il faisait c'était des véritables spectacles, ces masterclass. Alors, on peut pas, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier et qu'on recrée forcément inconsciemment, qu'on essaye de recréer inconsciemment quand on est dans cette situation-là. Mais de prendre la responsabilité vraiment du développement artistique de certains musiciens, de jeunes musiciens, c'est une toute autre paire de manches sur long terme, hein, sur un long terme, sur 2, 4 ans, 5 ans, voire 7 ans. Ça c'est petit à petit que ce désir m'est venu. C'est pas du tout un problème de communication, j'aime au contraire beaucoup partager mes passions et mes points de vue et en discuter, mais c'est sans doute aussi une évolution normale qui est lié sans doute à ma paternité aussi, je veux dire, le fait d'avoir des enfants. Et puis ça m'est venu naturellement. On m'a proposé ce poste en Allemagne, c'est à Detmold. J'en suis très content parce que c'est vraiment un petit bijou, cette école qui propose des choses merveilleuses. Peu de mes collègues rencontrent des lapins quand ils vont faire leurs cours. Peu de collègues peuvent se vanter que Brahms a travaillé dans le même bâtiment où ils enseignent. Il n'y a qu'une seule marque de piano. J'ai les arbres comme voisins et les oiseaux comme voisins, un parc splendide. Je choisis mes élèves, je choisis mes collègues. C'est merveilleux.
Alors justement, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait, vous avez dit qu'il y avait que la relation ne devait pas être à sens unique. Les élèves, certes, apprenaient, oui. Mais que oui. De l'autre côté, vous... finalement, vous appreniez aussi, énormément,
bien sûr, puisque vous apprenez sur vous-même. D'abord, comme dans tout enseignement, ça rend vos idées, le fait de pouvoir exprimer vos idées les rend évidemment plus claires à vous-même. Votre goût s'affine aussi. Vous êtes obligé de vous justifier, parce que tout simplement dire non, ça va pas, faut changer, ça suffit pas toujours. Et ça suffit jamais de toute façon. Il faut quand même toujours pouvoir se justifier. Il y a donc un travail de remise en question. Et puis même si l'élève, moi ce qui m'intéresse, les vrais problèmes pédagogiques finalement se posent dans des problèmes qui sont dans des élèves qui ne sont pas forcément très doués. J'ai en ce moment une élève extraordinaire de 21 ans qui joue toutes les sonates de Beethoven, qui a un répertoire de 13 concertos. Je veux dire, nos interactions, c'est presque une œuvre d'art, puisque il suffit que je lui montre la beauté d'une telle phrase et tout de suite elle me comprend. Bon, c'est facile, c'est merveilleux pour un professeur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir des élèves pas forcément très doués en but à des problèmes. Qu'on n'a peut-être pas connu ou qu'on a connu dans le meilleur des cas, mais si on n'avait pas connu, il faut pouvoir les comprendre et à vrai dire le véritable enseignement, c'est de pouvoir faire des progrès à n'importe qui, et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette marge de progrès d'où viennent l'étudiant. Et ça en Allemagne c'est assez bien vu parce que les niveaux sont très mixés. Donc vous avez chaque professeur enseigne tous les niveaux. Enseigner des élèves très forts, très doués, encore une fois, c'est presque à la portée de tout à chacun.
Je crois qu'il y a une personnalité qui a été importante dans votre carrière, c'est Scholti.
Ah oui.
J'aurais dû nous en parler un peu. Donc les circonstances, vous l'avez rencontré, comment ça s'est passé?
Ah, c'était une rencontre tout à fait fortuite en Suisse. Et il se trouve qu'apprenant ma femme et moi étant musiciens, ils inauguraient l'Opéra de Paris quelques mois plus tard. Et donc il nous a invités pour la représentation. Et je me souviendrai toute ma vie, il me dit, mais vous m'avez dit que vous étiez pianiste, j'aimerais bien vous entendre. Venez demain, venez demain à l'opéra. Et ça, c'est merveilleux parce que je crois qu'il a fait ça toute sa vie, et jusqu'à la fin de sa vie, mais je l'ai rencontré la dernière année. Qu'un musicien de cette envergure se soucie d'écouter quand même les nouvelles générations. J'ai été très touché par ça. Et le contact était,
était très fort, puisqu'il il m'a, enfin, en ce qui me concerne, mais j'ai senti qu'il avait eu tout de suite un intérêt et me proposait donc de revenir régulièrement, soit chez lui, soit à Paris quand il dirigeait. Et pendant un an et demi, j'ai eu donc la possibilité de lui jouer tout un répertoire et de lui poser des questions sur Bartok, sur Liszt. En lui disant que je jouais assez peu de Mozart, il me dit bah, « Apportez-moi le domineur de Mozart le mois prochain. » et puis de travailler aussi dans sa maison, de voir sa méthode de travail, de voir ses partitions, quelque chose qui m'a, étant moi-même un chef d'orchestre frustré, quelque chose qui m'a beaucoup appris.
Chef d'orchestre frustré, c'est une perche, ça, un peu, parce que...
Et frustré, oui, dans la mesure où...
Vous en êtes rendu compte il y a longtemps, vous étiez chef d'orchestre frustré, c'est récent, c'est...
Frustré, oui et non, puisque, en fait, derrière à mon avis, derrière chaque bon pianiste, se cache forcément un chef d'orchestre potentiel. Parce que l'instrument...
Il y a des exemples, bien sûr,
mais c'est pas pour rien, je veux dire, qu'on joue un petit prélude de Debussy ou la sonate à mort clavier de Beethoven, on des problèmes de gestion du temps, de répartition des éléments au niveau horizontal ou vertical, de la hiérarchie des éléments sonores, de pouvoir gérer plusieurs choses en même temps, du travail de balance, du travail d'articulation et de couleur, sont des choses très, absolument intrinsèques au travail du pianiste. Or, l'expérience m'a montré que, bon, en voyant les chefs travailler, ben c'est la même chose, quoi. C'est la même chose. Alors, après, il y a un travail de bras qu'on a plus ou moins naturellement, mais je ne voudrais pas mourir idiot, en tout cas. Ça arrivera forcément un jour. Oui, oui.
On en est proche, le jour, vous pensez ou
Ah ben non, j'en sais rien, il n'y a pas de projet concret, mais...
C'est la question un peu.
Oui, non, mais ça arrivera forcément, ça, je sais que c'est quelque chose qui arrivera forcément. Mais oui, donc pour en venir à Scholtis, qui a été vraiment d'une très très grande élégance de sa part, puisque il me disait toujours, oui, j'aime bien ce que vous faites, mais n'attendez rien de moi. N'attendez rien de moi, ne vous mettez pas à rêver sur des choses. Et moi, j'étais d'ailleurs trop content de pouvoir passer tous les trois mois une après-midi avec lui et de parler de musique, comme je viens de dire. Et puis un jour, il me montre un fax qu'il vient de recevoir de l'Orchestre de l'Opéra de Paris et qui lui dit, dans lequel il est écrit que donc, l'Orchestre de Paris accepte de rajouter le troisième concerto de Bartok à la cinquième symphonie de Mahler, qui était l'œuvre unique du programme prévu pour le 16 janvier 98. Voilà, 16 janvier avec des concerts doublés à 16-17 et doublés à Rome aussi. Ouais. Et alors là, c'était extraordinaire parce que c'était fait avec une telle... je me souviens de son sourire malicieux. Il ne m'a pas dit bonjour, il m'a juste montré cette... Avant même que, d'ailleurs, c'était le jour où je devais lui jouer le troisième de Bartok. Et je n'avais pas commencé. Je n'avais pas commencé à lui jouer. C'était même avant que je le joue. Donc ça c'est des moments qu'on n'oublie pas. Et donc ça, c'était en juin. Et il est mort en septembre. En juin 97, il est mort en septembre 97. Et donc il y a eu, c'est vrai, un moment où je ne savais pas si... puisque mon nom n'était écrit nulle part, je ne savais pas du tout si le concert allait être maintenu, enfin si le troisième concerto de Bartok allait être maintenu. Et donc c'est Pierre Boulez qui a fait le concert, qui a accepté la totalité telle que Scholti l'avait conçu. Et grâce, enfin, je crois que Scholti qui voulait, tel qu'il me l'a dit, voulait un peu donner un coup de pouce à ma carrière, et bien finalement c'est Boulez qui m'a donné, là il m'invite donc cet été... au Proms de Londres, et puis on a travaillé plusieurs fois ensemble depuis.
Justement, une autre personnalité, comment c'est pas... La rencontre s'est faite de manière...
merveilleuse, voilà.
Dans un contexte étonnant, mais comment s'est développé votre entente, votre relation avec lui?
Je connaissais la musique de Pierre Boulez, pour aussi l'avoir joué, et c'était vraiment, pour moi, toujours une esthétique à laquelle j'ai toujours été très proche. Contrairement à certains, je ne pensais, j'étais absolument persuadé, sans le connaître même personnellement, que Pierre Boulez était en fait quelqu'un qui s'impliquait énormément émotionnellement, et que ce qu'on peut considérer de l'extérieur comme quelque chose d'un purement intellectuel, cérébral, était forcément là, oui, mais comme une espèce de pilier de structure sur laquelle pouvait se développer et fleurir l'arbre de l'émotion, je veux dire, la fleur de la chair de l'émotion. Et je ne conçois, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant des musiciens instinctifs, je ne conçois le grand arc comme ça. C'est-à-dire, oui, c'est sûr, des bases peut-être un peu des bases conscientes. Hein, et à partir de laquelle on peut dire des choses. Oui, mais c'est pas nouveau. Haydn déjà. Haydn a dit, il a écrit dans un texte, quand l'homme écoute de la musique, il calcule des proportions mathématiques parfaites sans s'en rendre compte.
Justement, donc on parlait de Boulez, mais oui. Plus proche de nous, oui. C'est quelque chose, vous vous intéressez à ce qui s'écrit de nos jours.
Ah, énormément. Je suis très fier de pouvoir créer en septembre 2009 à Toulouse une pièce que Bruno Mantovani m'a écrite. Certaines de ses œuvres, pas toute son œuvre, mais c'est un compositeur qui me parle, qui m'émeut, qui me touche énormément, et qui m'intéresse tout simplement, qui m'interpelle. Un peu comme Debussy, en écoutant sa musique, j'ai l'impression d'être plus intelligent. Il me rend plus intelligent, et plus sensible, et meilleur. Je pourrais dire la même chose de Jörg Winman, de Courtag, de Stockhausen ou de Maurice Ohana, pour nommer certains compositeurs avec lesquels j'ai eu un contact direct. N'étant pas un très bon lecteur, ça me prend beaucoup de temps pour apprendre une œuvre de musique contemporaine. Beaucoup de temps. Tous les réflexes sont à bâtir, sont à construire quand vous trouvez devant un texte nouveau. Vous n'avez aucun repère. Toute votre base, vos systèmes, vos coordinations d'accords du mode tonal sont à mettre à la poubelle, sont à mettre de côté. Vous devez donc c'est un processus de maturation très, très long, très long. Et je veux dire par là que j'en fais pas énormément, peut-être un peu moins que ce que j'aimerais, parce que ça me demande beaucoup de temps. J'admire Pierre-Laurent Aymard ou Florent Boffat, ou je n'ai pour nommer deux amis qui peuvent digérer. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Ce n'est pas mon cas. J'en fais quand même, je pense, un peu plus que la plupart de mes collègues. Et puis, j'ai surtout, ce qui m'intéresse, c'est ce rapport direct avec le compositeur. Bien sûr. Pour avoir travaillé avec Courtag lui-même, à travers le travail qu'on a fait sur ces pièces, j'ai senti des solutions d'interprétation dans Beethoven, par exemple. Vous voyez, pour avoir travaillé avec Stockhausen aussi. Hein? Donc c'est ça qui est fascinant. Et en fait, la grande différence entre la musique contemporaine et celle du passé, c'est 10 numéros de portable, quoi.
Est-ce que si vous trouvez chef frustré, est-ce que de temps en temps vous êtes un compositeur frustré,
ah non.
Vous auriez ou
non.
Pas du tout,
non.
Du tout, du
non.
Tout.
Non, pas du tout. Ça même si j'improvise ou j'ai écrit 2-3 cadences comme ça, ou je fais un peu de jazz ou d'écrire, oui, non, pas du tout. Alors là, c'est tout autre mode d'esprit.
Non, je pense que je pourrais faire quelque chose d'assez correct en direction, mais non, composition, c'est pas la peine. Ça, non.
Vous avez parlé de jazz, c'est un style musical que vous écoutez comme ça de temps en temps, ou qui vous touche,
que j'ai même pratiqué assez sérieusement à un moment. J'étais très déçu quand, voilà, ça fait pas mal de temps, je ne vais pas dire quand, mais quand il y a eu un cours combiné à Mozarteum de Salzbourg avec Chicoria et Friedrich Gulda, qui a été annulé, faute d'élèves. Je crois que on était deux inscrits. Et ils sont ou alors ils étaient bagarrés, ou alors Gulda n'avait pas été prévenu. Enfin bon, il y a une petite histoire. Je vais peut-être vous dire quelque chose qui va être un peu choquant, mais a priori, j'ai plus de respect pour les musiciens de jazz que pour les musiciens classiques.
C'est quelque chose de récent ou ça a toujours été le cas?
Ah non, c'est toujours été. Je peux me justifier. Le musicien de jazz, il sait dans quelle tonalité il joue. Il a le sens du rythme. Et il écoute ses partenaires. Sans ces trois qualités-là, on ne peut pas être musicien de jazz.
Fin de citation. Alors justement, vous êtes rentré en jazz, j'allais dire, à quel moment? Quand vous étiez jeune, rapidement, ouais, vous étiez fan? Certains pianistes vous ont touché plus que d'autres.
Bien sûr, Chicoria. J'étais un peu moins attiré par Keith Jarrett, la musique que j'écoutais, c'est le John McLaughlin, Mahavishnu Orchestra, Soft Machine, les Pink Floyd, le Genesis de la première
époque.
Voilà. Et puis donc après je me suis intéressé au jazz plus ancien, le Fats Waller, le John Coltrane.
Vous en écoutez encore de temps en temps?
Bien sûr, oui. Ah oui, il y a toujours des choses que je trouve absolument. Le jazz a ce problème, c'est qu'il peut. Alors lui, peut-être est encore plus enfermé dans ses carcans que la musique classique, en fait, je trouve, et tourné en rond. Ça, c'est quand même vrai. Bien que ça soit un domaine soi-disant d'improvisation, on entend le langage évolue très très très
rapidement. Plein de tics.
Ah oui, absolument. Et il est vrai que quand il y a comme ça quelque chose qui ressort, comme un Brad Meldow ou David Shepherd que j'ai entendu récemment en Angleterre, soudain, il y a des créateurs, mais je pense que on peut très 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 facilement tourner en rond. Pour ce tournage en rond, où est-ce qu'il soit, on n'a pas forcément beaucoup d'attirance. Mais quand on voit ce que font certains musiciens hindous maintenant, je pense au batteur avec lequel John McLaughlin a joué un moment, ou alors celui que j'ai entendu là récemment au Bath Festival, c'est extraordinaire, fascinant, vraiment.
Je peux comprendre que dans vos icônes, vos idoles, vos marottes, je ne sais pas comment on doit dire, Richter et beaucoup de
réponses. Oui, absolument. D'ailleurs, dans ma classe à Detmold, il y a une photo de pianiste. Si je devais en mettre deux, je ne pourrais pas.
Deux fois Richter.
Non, oui, voilà, on va être deux fois. On en met une, c'est bon. Si vous me demandez d'en mettre cinq, déjà, je peux en mettre cinq. Mais si vous me demandez une, oui, bien sûr. Mais vous savez, on est nombreux, On est nombreux. Moi, je me souviens très, très bien déjà qu'en 87, au concours de Leeds, il y avait le Times, ou un journal anglais, qui avait fait un reportage en demandant à tous les candidats leur pianiste préféré. Et bien, Richter arrivait en tête. Évidemment, la génération qui avait 20 ans en 87 entendait Richter en concert encore, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, bien sûr. Mais oui, par rapport à son sens de la communication, le fait de ne pas se mettre en avant tout en étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, absolument reconnaissable, de ne s'être mis dans aucun moule, ni de répertoire, ni commercial, d'avoir été d'une totale indépendance toute sa vie.
Tout ça, ce sont des lignes de conduite aussi pour vous?
Oui. Enfin, ligne de conduite. La preuve que non, puisque j'enregistre une intégrale, je suis maintenant exclusivement chez Chandos. Oui, bien sûr, mais je pense que le contexte est différent. Mais il y a forcément une emprise de
personne, je pense, ne peut oublier la première fois qu'on a entendu Richter inspirer. Moi, c'est indélébile, quoi. Je veux dire, c'est marqué à vie.
Vous vous souvenez la première fois
Évidemment. Plus 31 numéro 2 et 31 numéro 3, c'est quelque chose que je mime encore régulièrement dans ma classe en leur disant à mes élèves, en leur montrant. On n'avait jamais vu une intensité pareille. J'avais jamais vu un son pareil. J'avais jamais vu un homme étant lui-même la musique à ce point-là, incarnant la musique. Oui, cette force de conviction. Il y a des œuvres, je me dis, pas forcément tout, mais il y a des œuvres qu'on ne peut plus écouter autrement. Après avoir entendu Richter, même évidemment en disque, on perd un peu, mais oui.
Vous pensez à quoi en particulier ?
L'opus 10 numéro 3, la 8e de Prokofiev, certaines pièces de Debussy, les estampes, certains Haydn, Schumann, les fantaisies de Opus 11, la toccata, Faschingschwang, le 5e de Prokofiev, beaucoup.
Est-ce que ça bride justement ? Vous citez des œuvres qui semblent comme intouchables, est-ce que ça sous-entend
j'ai jamais dit que c'était intouchable.
Non, est-ce que ça sous-entend que quand vous lisez vous-même, quand vous donnez votre interprétation de ce genre d'œuvre,
oui.
Vous avez cette sorte d'épée de Damoclès à la tête, à l'esprit.
Mais c'est pas du tout une épée de Damoclès. Au contraire, c'est un tremplin. Je suis content d'avoir ça comme inspiration puisque j'ai l'impression d'être plus près de l'œuvre. Au contraire, ça me semble être une chance énorme. Ah, je le sens pas du tout comme une épée de Damoclès. Je me sens au contraire me rapprocher de la vérité de la pièce. C'est ça, la seule chose qui m'intéresse. Moi, en tant qu'interprète, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que le compositeur soit content de ce que je fais. C'est-à-dire qu'il puisse dire, oui, c'est comme ça que j'ai pensé ma pièce. Or, avec Richter, bien que je n'ai pas parlé jamais avec Prokofiev au téléphone, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça doit être joué. J'ai l'impression d'entendre l'œuvre comme elle doit être jouée. Et avec Haydn aussi, et avec certaines sonates de Beethoven aussi. Donc, je me sens porté par cette inspiration. Ce n'est pas du tout une épée de Damoclès. Ah oui, non, je crois que là, il faut quand même remettre les... Moi, bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est que mon travail, ça consiste à prendre la musique d'un compositeur, à la comprendre et à la transmettre, rien d'autre. Donc il n'y a pas d'épée de Damoclès. La seule épée de Damoclès qui compte, c'est celle du compositeur. Ah oui, ça oui. Enfin, Richter à côté de Beethoven, malgré tout, oui, mais Beethoven n'est pas là. Et comme je dis, que j'ai l'impression que pour moi, Richter a raison, donc ça, c'est ça qui m'aide.
Des jeunes pianistes, très jeunes pianistes, vous touchent actuellement dans ce que vous entendez, ce que vous auriez lors de concerts, lors de récitals ou sur disque.
Absolument. Ben oui, justement, là, je vous dis, là, cet élève me touche, elle m'interpelle. Ho Jung Lee, et je pense qu'elle elle peut devenir une des meilleures pianistes de sa génération, absolument. Oui, mais je ne pourrais pas vous dire de noms, mais enfin on entend le niveau de pianiste, d'instrumentiste aujourd'hui quand même est très impressionnant. Parce qu'il y a et la quantité et le niveau. Je crois pas faut pas le penser comme ça, que ça devienne un problème, parce qu'en fait, il faut mieux se réjouir qu'il y ait plus de musiciens que pas assez. La véritable catastrophe, ça serait s'il n'y avait plus de musiciens et si les compositeurs nous disaient, je suis désolé, si Bruno Mantovani me dit, je ne peux plus rien écrire, j'ai plus d'idées, on a tout dit en musique. Alors là, on peut commencer à s'inquiéter. Mais Dieu soit loué, c'est pas du tout le cas. Donc il faut se réjouir de toute cette musique, de tout ce mouvement, que ce soit au niveau des interprètes ou au niveau des compositeurs. La musique n'est pas morte du tout. Elle vit au contraire plus que jamais, j'ai l'impression. Plus que jamais.
Parce qu'effectivement, la musique, les interprètes, loin d'être mortes, comme vous dites, c'est une réalité. Une chose qui est un peu en train de mourir, c'est le disque. Le concept du disque, c'est-à-dire une musique qui est enregistrée sur un support avec une durée précise, que ça soit qui commence à... Et le public consomme, vous l'avez même dit tout à l'heure vous-même, sur un lecteur MP3, une pièce par-ci, une pièce par-là.
Oui. Je crois qu'on est dans une période de transition.
Voilà, justement. Alors,
on est vraiment dans une période de transition.
Quelle est votre vision par rapport à ça en tant que musicien déjà ? Il y a Méloman, mais c'est-à-dire même musicien.
Le disque, c'est vrai, depuis, on disait ça déjà de la radio, que ça allait détruire le concert, a des effets pervers. Puisque les gens entendant chez eux, dans leur, quand ils vont au concert, ils veulent entendre la même chose. Et surtout si c'est le même interprète qui joue. Bon. Le disque a aussi cet effet pervers, c'est qu'on parle de, par exemple, comme je viens de le faire, du 5e de Prokofiev par Richter. Bon, mais j'ai pas dit la date, j'ai pas dit avec qui. 15 jours après, il a peut-être joué différemment. On a comme ça une espèce de photo, hein, une photo où il y a une date, un disque, on oublie quelquefois de dire les dates. Alors les gens ont comme ça des repères qui sont immuables, et quand ils vont au concert, ils veulent entendre ça. Et aussi les musiciens. Ça peut aussi quelque part, je comprends, je l'ai jamais vécu comme ça, mais je peux comprendre que ça peut aussi niveler les interprétations, parce qu'il y a du coup trop d'influences peuvent casser l'inspiration. Non, je pense qu'on est dans une période de transition. Il y aura forcément toujours des artistes, je veux dire, qui veulent enregistrer pour toucher un plus grand public. Il y aura toujours des mélomanes qui s'intéresseront au développement de l'interprétation. Je crois quand même qu'il y aura toujours des gens qui voudront aller au concert. Il y a peut-être un problème de présentation du concert. C'est-à-dire le temps où les gens applaudissaient une modulation, ou à la fin d'une cadence, comme on le fait encore aujourd'hui dans les chorus, à la fin des chorus de jazz, ou une surprise que le compositeur a trouvée. Bon, on le sait maintenant, ça, hein, ça existait. Les gens applaudissaient pendant l'œuvre, quand il y avait quelque chose qui leur plaisait. Bon, maintenant, quand on applaudit entre les mouvements, les gens ils sont rakiri, ou ils sont lâchés. Donc il faut peut-être trouver une communication plus simple avec le public. Je pense que cette formule de musicien, pour ceux qui aiment le faire, en mettant de côté s'ils sont capables de le faire, mais ceux qui en tout cas qui sont capables de le faire bien, mais en tout cas ceux qui en ont le désir, un rapport direct avec le public, je pense, est assez c'est vers ça qu'on tend. Je pense qu'avait un peu lancé Goulda en parlant à son public, en disant voilà, je vais vous jouer ça, j'ai envie de vous jouer ça maintenant, mais éventuellement même en disant quelques mots. Pas forcément ce qu'on peut trouver sur les pochettes de disques ou sur les livres, mais ce que ça peut, ce que pour lui ça représente, voire même dans la musique contemporaine, une double écoute avec un commentaire entre les deux. Ça, je crois beaucoup à ça. Quand vous écoutez une pièce pour la première fois, comment voulez-vous digérer tout ce qui s'y passe? Vous êtes perdu, vous savez même pas quand la pièce, où est-ce que le compositeur va vous mener, hein? Donc vous n'avez aucun point de repère. Le fait de l'écouter une deuxième fois, vous savez déjà comment elle va terminer. Donc vous avez le parcours de la pièce vous sera plus familier. Je pense que ce qu'essaye de faire René Martin dans Sa folle journée, par exemple, le succès maintenant le prouve bien. Les gens ont besoin d'une autre forme de concert, peut-être plus court, peut-être moins formel, oui. Je ne sais pas. Il faut chercher. Ça, je pense qu'il y a une évolution naturelle qui se fait. Mais une période de transition, ça c'est sûr.
Vous avez parlé de cette intégrale Beethoven. D'autres projets sur scène ou sur disque prochainement?
Oui, bien sûr. Il y a cette intégrale donc à Pékin. Il y aura l'intégrale de Bussy à la Roque d'Anthéron en été prochain, donc pas cet été 2008, mais... Il y aura un premier de Bartok avec l'Orchestre National au mois d'octobre. Juste avant, j'ouvre la série International Piano Series à Londres. Et ce concert Mantovani dont j'ai parlé, d'un début d'enregistrement de Satie, enfin un premier indice Satie, on verra bien si c'est le premier d'une longue série ou pas. Oui, non, il y a du boulot, oui, c'est bien.
Bah donc d'ici là, je rappelle qu'on va pouvoir écouter tranquillement l'intégrale de Bussy, donc dont le volume 3 vient de sortir chez Chandos.
Et le volume 4, normalement, en novembre, qui sera enregistré donc la semaine prochaine et qui sortira à l'automne 2008. Voilà.
Merci Jean-Yves Flamelet.
Merci.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.